Le portrait incontournable du jour, Bruce Springsteen par Charles Ducrot. La météo, Michel a une question pour vous, Anthony Kaczmarek. Ah. Il est dans les Vosges. Où est le soleil ?
Bien, il n'est pas là aujourd'hui. Il va se faire très très discret. Vous aurez quelques éclaircies quand même cet après-midi. Mais c'est vrai que sur la moitié nord, au nord d'une ligne qui passe par Nantes, Bourges, Lyon, il y aura des passages nuageux et des averses, surtout près des frontières du nord et du nord-est. Entre les Hauts-de-France, le Grand Est et la Franche-Comté, averses parfois orageuses. Mais plus vous irez vers les côtes de la Manche et vers les côtes bretonnes, plus vous retrouverez le soleil grâce aux brises qui vont souffler et qui vont dégager le ciel. Au sud, après quelques passages nuageux ce matin, là aussi vous retrouvez le soleil, plein soleil près de la Méditerranée et en Corse, mais avec du vent qui renforce le risque de feux de forêt et peut-être quelques averses sur l'est des Pyrénées et le sud des Alpes. Les températures fraîches au nord, 19 à 25 degrés cet après-midi, 23 à Paris et 24 à 31 degrés quand même dans la moitié sud, 31 à Perpignan.
Merci Anthony, nous sommes le samedi 2 août, vous écoutez RTL, il est 7h.
Avec Antoine Cavallero.
Le journal vous est présenté par Chloé Geffroy. Bonjour Chloé.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
À la une, déjà plus de 200 km de bouchons sur la route des vacances.
Journée dense, classée noire par bison futé et des embouteillages matinaux. On fait le point dès le début de ce journal. La colère des associations de défense des Palestiniens après ce gel des évacuations en France des Gazaouis. Au programme aussi, les garages de la marque Speedy refusent de prendre en charge les voitures équipées d'un airbag Takata. Et puis la star de la NBA, Victor Wembanyama, le français repéré à Brive, entraînement en toute discrétion, très loin de l'effervescence américaine.
RTL Matin.
Mais d'abord, cet été noir dans l'eau, les noyades.
Plus de 700 noyades depuis le début de la saison, dont 193 mortelles. C'est deux fois plus que l'année dernière, selon le dernier bulletin de Santé publique France, qui fait le lien avec la récente canicule. Les autorités appellent les baigneurs à la plus grande vigilance, signalant les risques liés aux sites non surveillés, comme dans ce plan d'eau de Bois-le-Roi en Seine-et-Marne, où vous vous êtes rendu, Thibaut Hue.
De l'eau jusqu'au cou, Diallo plonge dans un grand lac loin du bord et des bouées qui délimitent la zone de baignade surveillée. Pour lui, le jeu en vaut la chandelle.
Mais c'est des endroits déjà un peu plus tranquilles parce qu'il y a moins de monde. Et c'est des endroits un peu plus fous parce qu'il y a de gros rochers de ça, donc on peut sauter de haut. Donc oui, on sait que c'est dangereux parce qu'on peut glisser sur un rocher ou se noyer. Mais voilà, sans risque, en vrai, il n'y a pas de vie.
Catherine est venue pour tremper les pieds, mais elle le confesse, des risques qu'elle en a pris plus jeune.
Des fois, il y a des endroits qui sont très sympathiques, ils n'inspirent pas la peur, mais bon, après, je sais qu'il peut avoir des courants, des choses qu'on ne peut pas forcément savoir.
Adriano, lui, joue la sécurité. Avec ses filles, il ne s'aventure pas au loin et à la plage ou dans ce point d'eau. Pour lui, c'est exactement pareil.
Le risque, c'est le même. Si on ramène des enfants, tout ça, il faut qu'on soit toujours surveillant parce que c'est quand même dangereux. Les enfants, ils aiment d'aller plus en loin. Donc, c'est rester vigilant tout le temps, pas quitter les yeux.
Et les baigneurs rencontrés sont unanimes. Il est hors de question d'aller se rafraîchir dans des eaux où l'accès est totalement interdit.
Le reportage de Thibaut Hue, près de la moitié des noyades mortelles ont lieu dans quatre régions, principalement la région PACA, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
À tous ceux qui nous écoutent ce matin sur RTL, bon début de journée, bon courage si vous prenez la route des vacances.
Prudence et patience, bison futé, voie noire sur les routes, dans le sens des départs pour ce traditionnel week-end de chassé-croisé. Circulation extrêmement difficile sur l'ensemble des grands axes du pays aujourd'hui. Esther Abitbol, bonjour.
Bonjour Chloé.
Il y a déjà beaucoup de bouchons.
Oui, c'est exceptionnel, déjà d'importants embouteillages sur l'A7 en direction de Marseille, 30 km entre Reventin-Vaugry et Albon dans la Drôme, 20 km entre Bourg-les-Valence et les Tourettes également dans la Drôme. Plus à l'ouest, ça commence aussi à boucher sur l'autoroute A10, notamment à l'entrée de la rocade bordelaise, entre Ambarès et La Grave et Lormont. La circulation est en accordéon sur près de 10 km, alors soyez vigilants et maintenez bien vos distances de sécurité. Enfin, dans la capitale, des premiers embouteillages sur le périphérique parisien. En moyenne, vous mettrez une dizaine de minutes à rejoindre la porte d'Italie depuis la porte de Bercy. Attention, cet axe et celui vers l'A6A vont être particulièrement engorgés aujourd'hui. Nous vous conseillons donc de quitter l'Île-de-France après 18h.
Merci Esther pour ces précisions sur le trafic. On vous retrouve dans les prochaines éditions. RTL vous accompagne sur la route toutes les demi-heures.
7h04 sur RTL, la colère des associations de défense des Palestiniens après ce gel des évacuations en France des Gazaouis.
Gel annoncé hier par le Quai d'Orsay après la découverte sur les réseaux sociaux de propos antisémites. antisémite d'une étudiante palestinienne qui devait faire sa rentrée à Sciences Po Lille. Des publications supprimées depuis, appelant notamment à tuer les juifs. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a assuré hier qu'elle devait quitter le territoire national, ajoutant que des discussions étaient en cours sur sa destination. Une décision incompréhensible pour Lynn Haigar, avocate et membre du collectif des avocats France-Palestine.
Suspendre sur la base d'un amalgame total fait à la suite de déclarations individuelles qui ne regardent qu'une palestinienne qui les a relayées. On est évidemment consternés. On a des gens qui attendent depuis parfois plus d'un an et demi que leur famille, qui survit dans des conditions indignes, absolument indignes à Gaza, les rejoignent en France. On a aujourd'hui en attente une vingtaine de personnes que le collectif représente sur le droit à la réunification familiale. Des gens qui ont obtenu le statut de réfugié ou une protection, on les laisse dans l'enfer. Au regard de l'assimilation faite, l'ensemble des Palestiniens qui sont maintenant présumés coupables d'office d'antisémitisme. J'espère en tout cas que la déclaration du ministre est une déclaration intempestive faite sur le coup de l'émotion en réaction à l'interrogation qui lui a été formulée. Cette décision de suspension, elle vient punir collectivement des gens qui ont le droit le plus strict à rejoindre leur famille en France.
Propos recueillis par Vincent Serrano. Donald Trump hausse le ton face à la Russie et déploie 2 sous-marins nucléaires. Réaction au propos de Dimitri Medvedev sur les réseaux sociaux. L'ex-président russe a fait référence à la main morte, un ancien système de frappe nucléaire de l'Union soviétique. Quand on parle de nucléaire, il faut être préparé. Nous allons protéger notre peuple, a répondu Donald Trump hier, sans pour autant dévoiler la nature et le positionnement de ces 2 sous-marins.
Cette question à présent, la star du PSG, Achraf Hakimi, sera-t-il jugé pour viol ?
Le parquet de Nanterre a requis ce mercredi le renvoi du footballeur international marocain devant la cour criminelle pour des faits de viol présumé qu'il conteste fermement. Achraf Hakimi est soupçonné d'avoir imposé un viol à une jeune femme chez lui en février 2023 près de Paris. À ce stade, ce ne sont que des réquisitions. Le juge d'instruction doit décider s'il y aura ou non un procès pour viol. Réquisition non entendable pour maître Fanny Collin, l'avocate du sportif.
Achraf Hakimi est serein, comme d'ailleurs lors de l'ouverture de cette procédure. Il est serein parce qu'il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Pour nous, ces réquisitions sont non seulement incompréhensibles, mais insensé, encore une fois, non pas parce que je vous le dis ou que nous le pensons, mais au regard des éléments objectifs du dossier de la procédure.
L'avocate de la plaignante, elle se dit satisfaite de ces réquisitions.
Ma cliente accueille aujourd'hui les réquisitions de renvoi devant la cour criminelle avec un immense soulagement. Et quand je vois du côté de la défense qu'on prétend qu'il y aurait une tentative de racket, je tiens ici à rappeler que nous ne tolérerons aucune campagne de dénigrement ou de déstabilisation, comme c'est encore trop souvent le cas pour les femmes qui ont le courage de dénoncer les faits de viol dont elles sont victimes.
Le footballeur qui risque jusqu'à 15 ans de prison en cas de procès pour viol, on rappelle qu'à ce stade, il est toujours présumé innocent.
Le scandale des airbags Takatano finit plus de bouleverser le monde de l'automobile.
Pneus crevés, essuie-glaces capricieux, bougies d'allumage défaillantes, peu importe, les garages de la marque Speedy refusent de prendre en charge les voitures équipées d'un airbag Takata. L'entreprise avance des questions de sécurité pour protéger ses salariés, Michael Roland.
Trop dangereux pour nos salariés. Les garagistes Speedy refusent de prendre en charge tous les véhicules équipés d'airbags Takata, essuie-glace, plaquettes de frein, courroie, peu importe le type de réparation. Vous trouverez porte close si votre voiture est concernée. Au détriment donc des usagers qui manquent de solutions. Les enseignes Noroto et Point.S bloquent également l'entrée et les renvoient vers les constructeurs. Il faudra désormais présenter un justificatif de réparation de l'airbag pour enfin pouvoir faire entretenir son véhicule dans leur garage. Pour rappel, le gouvernement a ordonné l'immobilisation totale de 1 700 000 modèles en France.
Les précisions de Michael Roland.
Et à 8h15, nous aurons les explications du président de Speedy. Sa parole est rare dans les médias. Il est l'invité de RTL ce matin. Quand la star du basket, Victor Wembanyama, s'entraîne en toute discrétion à Brive-la-Gaillarde.
2 m22 et presque incognito dans cette commune du sud-ouest de la France, d'où est originaire sa maman. Forfait pour l'Eurobasket avec l'équipe de France, Wemby, qu'on ne présente plus, a pu profiter ces derniers jours des installations du club de basket de Brive grâce à l'aide de la présidente du club, Marie-Claude Saul. Surprise évidemment de voir le champion olympique, le vice-champion olympique débarquer.
C'est ma fille qui gère les réseaux sociaux du club. Et donc ma fille a reçu une invitation de monsieur Victor Wembanyama comme ami. Et du coup, elle a contacté en disant, mais voilà, je suis dans la région pour quelques jours et je cherche une salle pour pouvoir m'entraîner, quoi. Ma fille qui me dit, maman, tu crois que c'est vrai ou c'est faux? Je dis, bah non, ça doit être faux, c'est pas possible, quoi. Jusqu'au jour où le préparateur physique vous appelle. Et là, vous dites, bon, ben si, en fait, c'est bien ça. Le gamin a été des étoiles plein les yeux, que ce soit du petit de 9 ans jusqu'au gamin de 18 ans, quoi. Donc, c'est sûr que, bon, rencontrer une star internationale de cet acabit, forcément, ça arrivera peut-être pas tous les jours, quoi. On croisera peut-être plus facilement un rugbyman, un Antoine Dupont dans les rues de Brive, peut-être, un jour, mais Victor Wembanyama, non.
Vous n'avez pas tenté de le recruter pour la saison prochaine?
Alors, la mairie nous a tout de suite dit que financièrement, il pourrait pas suivre. C'est pas drôle. Non, le pauvre, il s'ennuierait, je crois. Il s'ennuierait.
Propos recueillis par Cédric Chasseur. C'est vrai que c'est la classe, hein, quand même. Victor Wembanyama, à Brive.
À Brive-la-Gaillarde. On en parlait en début de journal. Journée noire sur les routes ce samedi. Et si vous ne savez plus quoi faire pour occuper les enfants impatients d'arriver à destination,
RTL pense à vous et s'associe au podcast Jeunesse. Encore une histoire de Céline Calmal et Benjamin Muller. Vous pouvez dès à présent écouter deux célèbres histoires pour enfants sur l'application Les Aventures de Tom Sawyer et Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, dont on écoute un petit extrait.
Un jour, Sophie pensa qu'il était bon de laver les poupées, puisqu'on lavait les enfants. Elle prit de l'eau, une éponge, du savon, et se mit à débarbouiller sa poupée. Elle la débarbouilla si bien qu'elle lui enleva toutes ses couleurs. Les joues et les lèvres devinrent pâles, comme si elle était malade, et restèrent toujours sans couleur. Sophie pleura. Mais la poupée resta pâle.
La poupée est toute pâle.
Le podcast Encore une histoire à retrouver sur l'application RTL.
Tout comme votre journal. Merci beaucoup Chloé Geffroy. Prochain journal dans une vingtaine de minutes. Toute l'actualité RTL.fr. Les courses, le quintet, c'est cet après-midi à Clairefontaine-Deauville. Alexandre de Kopman vous conseille de jouer le 12, le 4, le 3, le 10, le 2, le 8... Le 11, l'outsider de RTL, c'est le numéro 10. Dans un instant, la Bretagne, terre d'agriculture. La visite se poursuit dans le Morbihan. On passe à table avec Jean-Sébastien Petit-Demange.
Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend.
Mais c'est sûr, ils gonflent les prix à la rentrée.
Bah, dis donc, c'est toi qui es gonflé?
Non, chez Conforama, la rentrée, c'est à prix coûtant. Par exemple, le four Candy, c'est 157,97€. Prix coûtant. Ni plus, ni moins.
Jusqu'au 25 août, conditions sur Conforama.fr.
Couleurs, chef-d'œuvre du Centre Pompidou, s'expose au Grimaldi Forum à Monaco du 8 juillet au 31 août. Un voyage sensoriel inédit au cœur de la couleur, de Matisse à Warhol ou encore Delaunay, avec des sons de l'IRCAM et parfums créés en collaboration avec la maison Fragonard. Plus d'informations sur grimaldiforum.com avec RTL.
En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Sauvignon, un cépage blanc qui ne manque pas de mordant.
Sous le soleil du Pays d'Oc, mes arômes d'agrumes et moi, on tient une forme. Un rayon de soleil, j'envoie de la fraîcheur à l'apéritif. Un plateau de fruits de mer, un plat épicé, hop, de la vivacité. Bref, si vous voulez du peps, c'est moi qui régale.
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Weekend avec Antoine Cavallero.
7h13, le Morbihan, c'est notre coin de France, notre région du matin. Jean-Sébastien Petit-Demange. Niveau gastronomie et terroir, la Bretagne est une sorte de paradis. On navigue entre la galette toute simple et le homard, entre les moules et les ormeaux.
D'abord, la Bretagne, il faut savoir que c'est la première région agricole de France, avec 60% de terres cultivées. Et pour ce qui est du Morbihan, on y recense 22% des exploitations de la région. Alors commençons par cela. La crêpe ou la galette?
La crêpe, $1000.
La crêpe, elle est préparée à base de farine de froment. La galette, à partir de farine de sarrasin, de farine de blé noir. Les crêpes, elles sont associées aux garnitures sucrées, les galettes aux garnitures salées. Le sarrasin, lui, a été introduit pendant les croisades.
Oui, mais pourquoi les Bretons parlent toujours de crêpes, même quand ils mangent des galettes?
Alors, c'est pas parce qu'ils sont
bretons.
Voilà, parce qu'ils essayent de nous tromper, en fait. Alors, et puis, Après, je vais vous dire, il faut être breton pour réussir à faire cuire une crêpe ou une galette sur la biligue. Vous savez, avec
oui, bien sûr.
Le tour de main et tout, c'est un enfer. En attendant, une crêperie se reconnaît à la bonne odeur qui en émane. Et ça, ça n'est que du bonheur. Faut savoir aussi goûter au gotial quand on est dans le Morbihan. C'est un pain brioché avec une mie assez dense, moelleuse, que l'on vend nature ou avec des raisins secs ou encore des pépites de chocolat, qui est consommé à Vannes et sur la presqu'île de Russe. Et puis, toute la région est une corde d'abondance en matière de fruits de mer, évidemment. La côte morbihanaise, elle, et avec ses eaux riches, offre une abondance de fruits de mer, avec quelques spécialités comme les fameuses huîtres de la baie de Quiberon. Il y a également des bigorneaux, des amandes de mer, des praires, des palourdes. C'est un véritable plaisir. Le fameux homard breton, j'en parle même pas, parce que c'est un bonheur. Et puis alors, en Bretagne, il y a une spécificité, le beurre est salé.
Oui. Ah bah oui, quand même.
Normandie, évidemment. Beurre doux, Bretagne, beurre salé. Et tout cela trouve son origine dans les arcades administratives de l'Ancien Régime, puisque la Bretagne n'était pas soumise à l'impôt sur le sel, la fameuse gabelle, et pouvait donc user et abuser de son or blanc, qu'elle produisait par ailleurs à Guérande, notamment, et qui servait à conserver les aliments, et en particulier le beurre. Et il y a de nombreuses spécialités sucrées qui sont estampillées pur beurre en Bretagne, qui ont ce petit goût un peu salé, qui est loin d'être désagréable.
On va aller goûter tout ça, si vous voulez bien. Jean-Sébastien Petit-Demange, oui. Nous sommes en direct du Festival Interceltique. La grande fête de l'été, c'est en ce moment à Lorient. 10 jours, 1 million de personnes attendues. Charles Guyard, c'est vous qui êtes en direct. Vous êtes notre reporter RTL. Est-ce que vous avez trouvé de quoi vous sustenter ?
Oui Antoine, une chose est sûre, hein, on ne va pas mourir de faim à Lorient pendant cette dizaine de jours, entre les crêpes et les incontournables galettes saucisses évidemment. On peut déguster de délicieux kougnamen chez kougn.bzh, kougn qui veut dire gâteau en breton et men, beurre, tout un programme hein, concocté par Jean-Yves. Alors attention, si vous êtes en guerre contre les calories, bouchez-vous les oreilles.
Donc là, je fais un petit lit de farine. Sur ce lit de farine, je vais prendre ma pâte. Une petite crêpe avec la pâte à pain. Sur ça, je vais prendre le beurre.
C'est une belle dose quand même de beurre là.
Il y a 200 grammes de beurre environ pour 400 grammes de pâte à pain. Donc sur ça, je vais mettre du sucre. Donc environ 200 grammes de sucre également. Et ensuite, on va faire la méthode de tourage. Comme si on faisait une pâte avec une pâte feuilletée. Sauf ici qu'on est ici avec une pâte à pain et ça ne se tourne pas tout à fait de la même façon. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le tour de main pour réussir ce kougnamen. Une fois qu'on a fait ce petit rectangle, ici on fait des kougnamens de deux parts. Je coupe en quatre et on continue un peu comme du tourage puisqu'on continue le pliage. Alors, petit papier cuisson et ensuite, on va les dorer à l'espagnol. Olé, olé, doré olé. On les incise en losange, comme le faisait M. Scordia, qui est l'inventeur du kougnamen. Le kougnamen a été inventé à Douarnenez en 1860, enfin, dans les années 1860.
Et là, ça part au four.
Ça va partir au four pendant à peu près 35 minutes.
Bon, allez, on va accélérer un peu la cadence et passer maintenant à la dégustation.
Alors.
Oh, c'est bon, hein. Non, trop fort rien. Alors, c'est excellent, la façon dont on peut voir qu'il est bon, c'est que ça colle aux dents.
C'est pas le seul critère, je pense. Il y a beaucoup de gens qui viennent au festival voir comment on le fait, qui tentent de le réussir chez eux. Quand ils le réussissent, ben tant mieux, tant pis pour nous. Et sinon, ben, ils reviennent acheter chez nous, il n'y a pas de problème.
Voilà, une demi-heure au four à 200 degrés environ et le tour est joué. Et pour faire passer tout ça, eh bien, on va aller boire un petit coup tout à l'heure.
Ouais, on vous retrouve tout à l'heure, on ira boire du chouchen avec modération. Merci beaucoup Charles Guyard, en direct de Lorient pour RTL. On continue de visiter la Bretagne. Vos messages, 64 900 avec le mot matin.
Les coups de pouce de RTL avec la Fondation de France.
Et chaque été, nous sommes fiers de travailler avec la Fondation de France, elle qui soutient plus de 12 000 initiatives solidaires dans tout le pays. À toutes ces personnes qui ont envie de changer les choses. À l'image d'Emma Fakrikian, inscrite en master de droit, elle dirige Copain Solidarité étudiante. C'est une association qui, notamment, distribue des paniers repas pour les étudiants les plus précaires. J'ai rencontré Emma dans les locaux parisiens de l'organisation créée en 2020 en pleine crise du Covid.
Exactement, Copain, ça a été créé entre les deux confinements en août 2020. Et les étudiants ont fait un constat selon lequel cette crise sanitaire avait vraiment plongé des milliers d'étudiants, leurs camarades de classe, des gens qui croisaient en amphi dans une précarité parce que les commerces étaient fermés, parce que les étudiants ont perdu leur job alimentaire qui leur permettait de financer leurs études et financer tous les besoins qu'ils pouvaient rencontrer au cours de leurs études. Donc ça a commencé avec des distributions alimentaires à Paris et au-delà de ça, on s'est rendu compte que la précarité étudiante, elle a plein d'aspects outre la précarité alimentaire. Donc on a développé nos actions dans d'autres villes et aussi sous d'autres formes.
Comment vous avez fait évoluer le projet ?
Le projet, il a d'abord évolué sur le type d'aide qu'on mettait en œuvre pour les étudiants. Au début, c'était que des distributions alimentaires et de produits d'hygiène parce qu'il y avait un besoin urgent de ce côté-là. Mais après, au-delà de ça, quand les commerces ont rouvert, que les événements culturels ont repris, on s'est aussi rendu compte que les étudiants faisaient la croix sur plein d'autres choses à côté. Donc ça peut être des sorties culturelles, des sorties sportives. Il y a aussi énormément de demandes concernant l'insertion professionnelle. Donc on a développé nos actions par ce biais-là. Et au-delà de ça, la précarité étudiante, elle n'est pas visible qu'à Paris. Donc on s'est développé dans d'autres villes. Aujourd'hui, on a 27 antennes dans toute la France.
Est-ce que vous avez vu du coup le profil de ces étudiants évoluer, changer ?
La demande est quand même plus accrue parce qu'à chaque fois qu'on organisait une distribution en plus par semaine, il y avait de la demande et il y avait des étudiants qui y venaient. Il n'y a pas de profil type d'étudiant qui vient en aide alimentaire. Ça peut être des étudiants qui vivent encore chez leurs parents, des étudiants étrangers qui sont venus en France pour faire leurs études, des étudiants qui travaillent à côté de leurs études, qu'ils soient boursiers ou non. C'est vraiment, il n'y a pas de profil type, c'est devenu un problème global et systémique.
Et est-ce que vous arrivez à récolter de plus en plus de fonds pour essayer de promouvoir vos actions, de les démultiplier ?
Au moment de la crise sanitaire, l'opinion publique et les médias étaient pas mal tournés envers la cause étudiante et la précarité étudiante. C'est à ce moment-là qu'on a vu les plus grosses images de files d'attente dans les distributions. Quoi. 5 ans plus tard, le problème il est toujours là, mais on sent quand même pas un essoufflement des médias et des pouvoirs publics, mais le fait que la précarité étudiante, elle devienne un problème second, parce qu'on se dit que c'est normal quand on est étudiant de galérer, c'est un rite de passage pour tout le monde et que c'est à ce moment-là de notre vie qu'on va le plus galérer, donc pourquoi y penser, y réfléchir plus que ça ?
En fait, on a un peu l'impression que la précarité étudiante, elle s'est installée dans le paysage.
C'est devenu quelque chose de banal et normal. Si à la crise sanitaire, on s'est rendu compte que la situation s'était peut-être aggravée avant le Covid, en fait, le Covid, il a fait que révéler des choses qui existaient déjà. Et maintenant que le Covid est passé, on se dit que ces choses-là n'existent plus parce que les étudiants ont retrouvé un job alimentaire, parce que la crise économique est passée, mais c'est pas du tout le cas et c'est important de le souligner.
Important de le dire, l'association Copain, plus de 90 000 paniers distribués l'an dernier à plus de 37 000 étudiants. Merci à Emma Fakrikian, dont le travail est soutenu donc par la Fondation de France. Vous avez toutes les informations sur fondationdefrance.org. Dans un instant, on va lire sur RTL. Nous explorons l'œuvre de Michel Bussy. Il va nous parler de l'Auvergne, là où l'écrivain géographe a vécu de joyeuses colonies de vacances. À tout de suite.
Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Weekend. Renault.
Vous voulez passer à la voiture électrique, mais entre 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable, vous hésitez. Pour être sûr de ne pas vous tromper, choisissez Renault, le numéro 1. Numéro 1 des ventes de voitures électriques en France. Numéro 1 des ventes de voitures hybrides en France. Marque automobile favorite des Français.
Numéro 1 des ventes de véhicules électriques et hybrides de janvier à juin 2025, source 3 Adata. Baromètre Posternak IFOP, juin 2025. Voir Renault.fr. Renault. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Besoin de faire le plein d'énergie ? EDF vous a concocté le jus de l'été. Alors, je prends un service client haut de gamme, j'ajoute des kilowattheures pour la puissance, j'enlève quelques euros pour la légèreté, je mélange, et voilà, c'est plein d'énergie.
En ce moment, profitez de jusqu'à moins 6% sur le kilowattheure hors taxe par rapport au tarif réglementé avec une qualité de service numéro 1 du secteur. Étude Bearing Point et Kantar, catégorie entreprise de service. Infos et conditions sur edf.fr/nos-offres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et si vous faisiez halte au bord de l'étang de Thau, véritable lagune près de Sète. À la terrasse du Saint-Barth à Marseillan, offrez-vous un plateau de fruits de mer accompagné d'un verre de Listel. Listel, frais, délicat, un vin gris venu du sud. À l'horizon, son terroir, riche de soleil et de vent marin, baigné par une étendue d'eau azur. Listel, les saveurs de Méditerranée depuis 140 ans. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
RTL, des livres et des voyages
avec Michel Bussy.
Et oui, 7h23, on voyage avec Michel Bussy. L'écrivain géographe sort bientôt un nouveau roman, Les Ombres du Monde. C'est aux presses de la Cité. Ce sera le 14 août prochain. Michel Bussy s'est confié à Antoine Léris et il raconte comment il a construit son œuvre, comment il a sélectionné les lieux. Quatrième étape, le Massif Central, les colonies de vacances.
Bonjour Michel Bussy.
Bonjour.
Quatrième étape dans notre périple. On avance dans votre œuvre, on avance dans les années, dans les romans, dans les lieux. On arrive en 2021 pour Rien ne t'efface et là on part en Auvergne, l'Auvergne et le Puy-de-Dôme. Est-ce que vous pouvez me dire comment est née l'idée de ce livre Rien ne t'efface?
Alors l'idée de ce livre, alors le pitch, hein, c'est une maman qui est au départ au Pays Basque et puis son enfant de 10 ans, Esteban, va disparaître, voilà, sur la plage. Elle ne le retrouve pas. Et 10 ans après, sur la même plage, elle croise un petit garçon qui est le sosie parfait de son enfant et elle se persuade que cet enfant c'est Esteban, sauf qu'on est 10 ans après qu'il aurait forcément vieilli, il aurait forcément 20 ans, donc ça ne peut pas être lui, mais elle va s'accrocher à cette idée que c'est lui, et plus elle enquête sur cet enfant, plus elle se persuade que c'est lui, jusqu'à des tests ADN qui lui confirment que c'est bien lui. Donc là encore, on a un mystère initial qui est que ça ne peut pas être le même enfant, et pourtant tout prouve que c'est le même enfant. Et c'est vrai que j'ai vraiment imaginé cette histoire, je me souviens, j'étais à la piscine, et je vois un garçon, et je me dis, tiens, c'est mon fils. Et en fait, non, évidemment, mon fils, il avait déjà 20 ans, donc ça ne pouvait pas être lui, mais il ressemblait vraiment à mon fils quand il avait 10 ans. Je me suis dit, tiens, ça serait amusant de, si on pousse la situation et de se dire que c'est vraiment le sosie et donc on est face à une espèce de surnaturel qui surgit dans la vie et néanmoins il y a forcément une explication rationnelle. Donc voilà, donc parfois les mystères naissent comme ça d'une petite situation, et j'ai tiré le fil. Et après, j'ai mis ce roman en Auvergne, parce que l'héroïne, donc, Maddy, est médecin, et l'enfant qu'elle reconnaît habite à Murol, donc un petit village d'Auvergne, et qui cherche un médecin, justement, dans un désert médical. Et donc, elle se dit, je plaque tout, et je vais aller à Murol, devenir le médecin de ce village, pour en savoir plus sur cet enfant.
Comme souvent dans vos romans, ce lieu, il a une signification personnelle pour vous. C'est le lieu où vous alliez en colonie de vacances quand vous étiez.
Oui, c'est ça. Moi, l'Auvergne, c'est le lieu de mon enfance. J'allais en colonie tous les étés, en fait, pendant un mois. À l'époque, on partait en colonie de vacances pendant un mois, voire cinq semaines. Voilà, on envoyait deux, trois lettres à ses parents et encore. Voilà, donc il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas tout ça. Donc on était débarrassés des parents et les parents débarrassés de leurs enfants. On imagine peu ça aujourd'hui. Et donc pendant cinq semaines, moi, j'étais livré dans la nature, dans les forêts, dans les rivières en Auvergne. Et c'est vrai que c'est toute l'année ensuite, j'entendais encore l'eau des torrents couler. Le parfum des résineux, enfin il y a quelque chose qui m'a marqué à vie parce que je partais pas ailleurs en vacances. On nous parlait d'histoires de sorcières, on nous parlait comme ça des secrets des pierres, des moulins abandonnés. Donc il y avait tout ce mystère qui a marqué un peu mon enfance et que j'ai voulu remettre dans ce roman.
Vos romans commencent souvent d'ailleurs par des cartes pour qu'on puisse situer l'intrigue. Est-ce que c'est aussi le point de départ, ce lieu, de votre désir d'écrire?
Au départ, oui. Au départ, les premiers romans sont clairement nés de lieux que je connaissais. Mais plus ça va, plus en fait, c'est plutôt les intrigues qui prennent le pas. Et à partir de là, j'essaye effectivement de construire une intrigue sur un lieu et de choisir un lieu. Rien ne t'efface, c'est clair que j'avais envie d'écrire sur l'Auvergne et j'ai entendu d'avoir une histoire qui soit idéale pour l'Auvergne.
Rien ne t'efface, ça me rappelle une chanson, Michel Bussy.
Oui.
Laquelle et pourquoi?
Eh bien, pas toi, de Goldloine, bien sûr. Quoi que je fasse ou que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi.
Graver l'écorce jusqu'à saigner.
Non, une très jolie chanson, puis en plus quand on entend toi, on a l'impression que c'est une chanson d'amour, mais enfin, c'est pas du tout, c'est une chanson absolument terrible parce que c'est quelqu'un qui est désespéré, qui pense que rien ne t'efface, c'est-à-dire quoi que je fasse, quoi, ou que je sois, je pense à toi, et pas toi, quoi, c'est terrible, c'est-à-dire que l'autre s'en fout. Et donc c'est une chanson assez terrible, assez forte, et du coup ça correspondait assez bien effectivement à ce sentiment d'une mère dont l'enfant a disparu et qui s'adresse à lui.
Merci Michel Bussy.
Et sachez que l'adaptation télé de Rien ne t'efface est prête, elle sera diffusée à la rentrée 2025. Michel Bussy, inspiré donc par Jean-Jacques Goldman, merci à Antoine Léris. Les grosses têtes sur RTL, voici votre extrait du matin quand les sociétaires parlent funérailles.
Moi je te ferai un beau discours.
Bon, ben, je serai pas là pour l'entendre.
Quelle musique vous avez choisi?
Oh non, de l'accordéon.
Non, je veux un recueillement total. Je veux pas du tout que vous alliez faire la fête en disant elle aurait aimé. Non. Elle aurait aimé qu'on aille boire un coup, qu'on s'amuse. On la connaît, elle aurait aimé. Non.
Elle aurait aimé qu'on vienne pas.
Non, je veux que vous vous emmerdiez vraiment, que vous n'alliez pas boire un coup après.
Mais t'as pas besoin de mourir pour ça.
Bon, bah, écoutez, c'est d'accord, on viendra pas.
Vos grosses têtes, 15h30, 18h tous les jours sur RTL. La météo, Anthony Kazmarek. Nous avons Amandine qui nous écrit sur la page Facebook de l'émission, car oui, la vidéo est disponible. Vous pouvez aller la commenter. Elle a 14 degrés aujourd'hui en Saône-et-Loire, sans pluie pour l'instant.
Pour l'instant, mais il y a des averses qui circulent déjà près des frontières belges, luxembourgeoises, allemandes, entre les Hauts-de-France, le Grand Est, la Franche-Comté, donc jusqu'à la frontière suisse même. Averses qui vont se poursuivre une grande partie de la journée avec même quelques coups de tonnerre, toujours près des frontières, et un ciel assez chargé. Un ciel chargé qu'on retrouve ce matin jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes et jusque dans les plaines du sud-ouest, tout comme sur la Haute-Normandie. Mais ailleurs, c'est le soleil qui s'impose. Et cet après-midi, on va retrouver un découpage classique nord-sud. Au nord du Lignes qui passe par Nantes, Bourges, Lyon, quelques passages nuageux. De plus en plus de soleil en allant vers les côtes de la Manche grâce aux brises qui dégagent le ciel. Et dans la moitié sud, ce sera du soleil, hormis quelques averses en montagne. Ça, c'est classique en été. Et toujours ce vent près de la Méditerranée qui renforce le risque d'incendie, donc prudence. Les températures, 19 à 25 degrés seulement sur la moitié nord, mais 24 à 31 dans la moitié sud, 31 à Nîmes, 28 à Toulouse, 23 à Paris et à Strasbourg et 21 à Lille.
Merci Anthony Kazmarek, RTL, soyez tous les bienvenus, il est 7h30.
RTL Matin.
Et toute l'actualité avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Antoine et bonjour à tous. Et vous, vous seriez-vous méfié d'une grand-mère dans le besoin? En Haute-Savoie, à Neufcelles, un refuge pour animaux appelle l'État à l'aide. Ça fait 5 ans qu'une squatteuse de 83 ans a pris possession des lieux. Depuis, elle a fait flamber les factures et elle pique dans la caisse de l'association. Tout partait pourtant d'un bon sentiment, Simon Marseille.
Oui, comment ne pas tendre la main à cette vieille dame retrouvée au bord de la route en chaussettes? C'était en 2020. Patricia, présidente des bénévoles, lui prête les clés de son refuge gratuitement et s'en mord vite les doigts.
Quelques temps après, elle a changé une bonne partie des serrures. Elle s'est fait passer pour une responsable. Elle a détourné 2 800 €. Elle a quand même piqué les clés de la voiture qu'elle a gardée pendant un an, qu'elle n'a pas voulu nous rendre. Et maintenant, nous sommes passés de 3 500 € d'électricité par année, on en est presque à 7005. Je suis presque au bord de la banqueroute.
Et depuis, 15 bénévoles ont claqué la porte. Patricia s'arrache les cheveux. La loi l'empêche de forcer elle-même la squatteuse à faire ses valises.
On est abandonné. Personne pour vous prêter main forte. Je peux vous dire quelque chose. Trop bon, trop con, ça suffit une fois, pas deux.
Et elle s'accroche désormais à ce bout de papier, une ordonnance d'expulsion rendue par le tribunal de Thonon-les-Bains il y a presque un an. Et dernier obstacle, indique la préfecture, identifier des solutions pour l'octogénaire.
Les explications de Simon Marseille pour RTL.
Vos conditions sur la route, c'est noir dans le sens des départs.
Le samedi de chasse et croisée s'annonce très chargé partout si vous prenez la route aujourd'hui. RTL, dans la voiture, on vous accompagne sur la route. Esther Abitbol, vous êtes notre tour de contrôle ce matin. Il y a déjà plusieurs points de blocage, Esther.
Oui, 80 km de bouchons cumulés sur l'A7, c'est énorme à cette heure-ci, Victor. Ça coince notamment en direction de Marseille, dans la Drôme, entre Reventin-Vaugry et Albon, entre Pont-de-l'Isère et Étoile-sur-Rhône, mais aussi entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Orange dans le Vaucluse. Sur ces trois axes, les embouteillages s'étendent sur une vingtaine, voire une trentaine de kilomètres. Des embouteillages aussi sur l'A10. En Eure-et-Loire, la circulation se complique entre Allainville et Saint-Ville en raison d'un accident impliquant un véhicule léger. Et puis même situation à plusieurs centaines de kilomètres à l'entrée de la rocade bordelaise. Deux automobilistes sont entrés en collision à Peugeot en Gironde. Accident qui perturbe votre trajet sur une dizaine de kilomètres.
Merci Esther. Esther Abitbol qui vous informe sur vos conditions de circulation toutes les demi-heures sur RTL.
Et comme vous êtes très prudent, vous avez peut-être voulu passer chez le garagiste pour vérifier l'état de votre voiture.
Et vous avez alors certainement remarqué que trouver un rendez-vous rapidement est loin d'être facile. Et pour cause, beaucoup de garagistes manquent de personnel. L'an dernier, 18 000 postes n'ont pas trouvé preneur. Pourtant, le nombre de jeunes en formation ne cesse d'augmenter. Le souci, c'est que beaucoup quittent rapidement le métier, laissant les patrons à sec. Reportage RTL à Etzheim, dans le Bas-Rhin, signé Yannick Collant.
Dans son garage à Ensheim, Jean Kleiss cherche à recruter un mécanicien en CDI depuis longtemps, mais il ne trouve pas parmi la jeune génération.
C'est très compliqué aujourd'hui de trouver quelqu'un qui a encore envie, qui est encore motivé, professionnel quoi. Surtout là, le dernier recrutement, c'était un mécano quasiment en fin de carrière, à un an de la retraite. Ce type de profil, on peut encore trouver, mais voilà, ça reste l'ancienne école. Malheureusement, c'est les plus fiables.
Julien Braun est carrossier à Ilkirch, responsable formation pour la Corporation des métiers de l'automobile dans le Bas-Rhin. Le problème, c'est que les jeunes mécaniciens sont nombreux à changer de métier une fois formés.
On est soumis aux 30% qui restent et 70% qui partent. Donc entre ceux qui vont directement ailleurs pour rapidement gagner plus d'argent dans de l'industrie ou ce genre de choses. Nous en Alsace, beaucoup de jeunes qui passent la frontière parce que les rémunérations sont plus attractives chez nos voisins.
Certains font quand même le chemin inverse, comme Éléonore, 22 ans, après des études de maroquinerie, elle s'est tournée vers la carrosserie car pour elle, c'est un métier assuré.
Il n'y avait pas trop en fait, de débouchés pour moi en maroquinerie. J'ai tenté ma chance en carrosserie automobile. Ce que j'ai souvent entendu, c'est un carrossier au chômage, ça n'existe pas. Donc voilà.
Et la filière automobile essaye désormais d'attirer ses nouveaux profils, des jeunes en reconversion qui choisissent vraiment de devenir mécanicien ou carrossier.
Yannick Collant à Ensheim dans le Bas-Rhin pour RTL.
Et à 8h15, nous aurons les explications du président de Speedy sur ce manque de mécaniciens. Il vient nous dire aussi pourquoi ses employés ne réparent pas les voitures équipées d'airbags Takata.
Dans l'actualité également, des réquisitions insensées et incompréhensibles. Réaction des avocats d'Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain pour qui le parquet de Nanterre a demandé un procès pour viol. Une femme l'accuse depuis 2023. C'est désormais au juge d'instruction de trancher sur cette demande de renvoi.
Le suspect d'un double meurtre retrouvé mort hier près de Dijon.
Un employé d'une entreprise de BTP qui a été au cœur d'une chasse à l'homme toute la journée d'hier. Les gendarmes se sont lancés le matin à sa poursuite après la découverte dans son usine des corps de deux de ses collègues, Sophie Neumayer.
Où il est autour de 5h du matin hier. Un employé s'apprête à prendre son poste au sein de l'entreprise Maggioni, spécialisée dans la fabrication de béton prêt à l'emploi à Bressay-sur-Tille. À son arrivée sur le parking, il découvre ses deux collègues tués par balle, chacun dans sa voiture. Les gendarmes mettent très vite en place un large dispositif pour identifier puis trouver l'auteur en fuite et armé. Un salarié de l'entreprise décrit comme agressif, instable depuis quelques semaine. Il était en conflit avec les deux victimes âgées de 42 ans et nourrissait une rancœur ciblée en particulier sur L2. C'est finalement à 25 km de l'entreprise Maggioni, à Lamarre-sur-Saône, que son corps est retrouvé en début d'après-midi. L'homme, âgé de 55 ans, s'est manifestement suicidé avec son arme. Le parquet de Dijon précise que l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de ce double assassinat.
Sophie Neumayer du service police-justice de RTL. Deux semaines de plus, la ville de Nîmes prolonge sa mesure de couvre-feu entre 21h et 6h pour les moins de 16 ans. Ça concerne plusieurs quartiers sensibles. La mairie la présente comme une mesure de protection contre le narcotrafic après plusieurs fusillades ces derniers mois sur fond de trafic de drogue.
L'actualité à l'étranger, Donald Trump qui brandit la menace nucléaire contre la Russie.
Sur ordre du président américain, hier soir, deux sous-marins nucléaires doivent être déployés. Loubna Anakti, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Le chef de la Maison-Blanche montre les muscles parce qu'il n'a pas du tout aimé les dernières déclarations d'un ancien président russe.
Oui, Donald Trump et Dmitry Medvedev s'affrontent par messages interposés sur les réseaux sociaux. Tout a commencé lorsque l'ancien président russe a qualifié de théâtral l'ultimatum fixé par le locataire de la Maison-Blanche à Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a également fait référence à l'arsenal nucléaire russe et affirmé que chaque ultimatum était, je cite, un nouveau pas vers la guerre. Des propos qui forcément n'ont pas plu à Donald Trump. Habitué des clashs virtuels, le républicain a réagi sur son réseau social. Les mots comptent et peuvent avoir des conséquences, dit-il, parlant de propos idiots et incendiaires. Le président américain a donc ordonné l'envoi de deux sous-marins nucléaires vers, je cite, des zones appropriées, sans donner plus de détails sur ces zones et sans préciser si ces sous-marins sont porteurs d'ogives ou pas. Cet épisode, en tout cas, marque la dernière escalade entre Washington et Moscou autour de la guerre en Ukraine.
Loubna Anakti, correspondante de RTL aux États-Unis.
7h38.
RTL Sport.
Et d'abord, les exploits de nos Français aux mondiaux de natation à Singapour.
Johan Ndoye Brouard en bronze hier sur 100 mètres d'eau. Et la finale du jour, c'est celle du 100 mètres papillon avec Maxime Grousset. Rendez-vous à 13h40 heure française avec un objectif pour le tricolore. Remporter une deuxième médaille d'or, lui qui a été sacré lundi sur la distance inférieure. Le 50 mètres papillon, Isabelle Langer.
Ah oui, Maxime Grousset en a les moyens. Meilleur temps mondial de la saison sur la distance, il peut cet après-midi aller chercher de nouveau un titre planétaire sur cette course qu'il a déjà sacrée aux Mondiaux en 2023. En gagnant sa demi-finale et en signant le troisième meilleur chrono hier, l'étudiant en kinésithérapie a voulu marquer les esprits.
Je voulais montrer que j'étais là et que j'étais en forme, qu'il fallait pas me sous-estimer.
Tout à l'heure, il sera couloir 3 à côté du Suisse Noé Ponti, son pote, qu'il a devancé lundi en finale du 50 mètres papillon.
Je préfère encore plus battre mes potes. Pareil sur les jeux vidéo, je préfère encore plus battre mes potes, donc c'est un plaisir de nager contre lui.
Surtout s'il gagne et se part de nouveau d'or.
Et deux résultats ce matin. Beryl Gastaldello s'est qualifié pour les demi-finales du 50 mètres avec le sixième temps des séries. En revanche, ça n'est pas passé pour Analia Pigré, 17e. Il fallait être dans les 16 premiers pour accéder aux demi-finales. Du cyclisme, et Maëva Skiban a récidivé hier sur le Tour de France Femmes, deuxième victoire d'étape d'affilée. Pauline Ferrand-Prévot est deuxième au classement général en embuscade derrière la Mauricienne en jaune Kim Lecourt. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière étape et c'est de la montagne avec une arrivée au sommet du col de la Madeleine.
Le football et l'Olympique de Marseille qui casse sa tirelire pour Igor Pechao.
C'est officiel, le Brésilien débarque sur la Canebière en provenance de Feyenoord pour 35 millions d'euros bonus compris. L'ailier devient ainsi la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Et ce, alors que les Fosséens enregistraient le retour d'un ex, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, expatrié pendant un an en Arabie Saoudite, mais qui a tout quitté pour revenir.
Oui, c'est vrai, j'ai eu de très bonnes offres d'autres pays du Moyen-Orient, mais je pense que, comme je l'ai dit, c'était vraiment le choix du cœur, parce que j'ai vécu des choses ici qui étaient extrêmement fortes. Ce sont des choses, comme on dit, qui ne s'achètent pas. Et si vous voulez savoir, oui, j'ai fait des efforts, mais je pense que c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de retrouver ce public, ce stade qui donne des émotions, des frissons, parce que je sais qu'il va se passer de grandes choses.
L'attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang. Et puis de la Formule 1 et les qualifications du Grand Prix de Hongrie prévues à 16h hier aux essais libres, c'est Lando Norris sur McLaren qui s'est montré le plus rapide. Max Verstappen, lui, le champion en titre, a pris un avertissement pour avoir jeté une serviette de sa voiture en plein tour de piste.
Merci Victor, ça ne se fait pas. Et vous, on vous retrouve à 8h30 pour toute l'actualité. Rendez-vous sur rtl.fr. Vos commentaires sur la vidéo Facebook, sur la page de l'émission, aller voir la quête d'Anthony Kaczmarek, la recherche de la machine à café, c'est passionnant. Pour Aline, c'est brioche ou praline avec l'expresso du matin. Christine n'a pas de vacances, donc c'est café obligatoire dans la Beauce. Christine, si vous ne partez pas tout de suite, on vous fait voyager. La carte postale du matin, c'est la Bretagne Sud. C'est avec Jean-Sébastien Petit-Demange, c'est dans un instant.
Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend. Renault.
Vous voulez passer à la voiture électrique, mais entre 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable, vous hésitez. Pour être sûr de ne pas vous tromper, choisissez Renault, le numéro 1. Numéro 1 des ventes de voitures électriques en France. Numéro 1 des ventes de voitures hybrides en France. Marque automobile favorite des Français.
Numéro 1 des ventes de véhicules électriques et hybrides de janvier à juin 2025, source 3 Adata. Baromètre Posternak IFOP, juin 2025. Voir Renault.fr. Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun.
On vous ramène.
Mais c'est sûr, ils gonflent les prix à la rentrée.
Bah, dis donc, c'est toi qui es gonflé. Non, chez Conforama, la rentrée, c'est à prix coûtant. Par exemple, le four Candy, c'est 157,97€. Prix coûtant, ni plus, ni moins. Jusqu'au 25 août, conditions sur Conforama.fr.
En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole à la Syrah, un cépage rouge à forte personnalité.
Ici, en Pays d'Oc, le soleil s'est révélé toute la richesse de mes arômes. Je suis aussi à l'aise avec des viandes grillées au barbecue qu'avec des petits plats épicés. Pour se marier avec moi, c'est bien simple. Il suffit d'avoir du goût.
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Au cœur de la création, le podcast.
Mais c'est quoi d'être le fils de Guillaume Gallienne?
Oh, je sais pas, faudra lui demander.
Et d'être le mari, d'être la femme de Guillaume Gallienne.
D'être la c'est beau lapsus. D'être la femme de Guillaume Gallienne, mais je sais pas. Écoutez, ça fait 24 ans pour l'instant. Donc, pour vous que ça douche.
Au cœur de la création, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL.
RTL Matin le week-end avec Antoine Cavallero.
Après la Provence, après les Landes, après la Côte d'Opale, nous visitons la Bretagne ce matin, plus particulièrement la Côte Sud, Jean-Sébastien Petit-Demange. Vous êtes notre monsieur patrimoine. Il y a un lieu que vous adorez particulièrement sur le littoral du Morbihan, c'est la Ria d'Etel. C'est où? C'est quoi?
Alors si on part de l'Orient, on longe la côte vers le sud-ouest, vers le sud-est, et à une trentaine de kilomètres, on va tomber sur un village de pêcheurs qui est Etel, qui se trouve à l'entrée de la Ria d'Etel, justement. En fait, c'est une fracture immense dans le littoral creusé par la rivière Etel, et ça donne un paysage totalement onirique, entre ciel et mer, qui plonge les plus matérialistes d'entre nous dans une contemplation absolue. Il se passe quelque chose de tellurique dans cette Ria. La Ria, c'est un mot qui vient de Galice. Ailleurs, en Bretagne, on appelle cela un aber. En Norvège, on parle d'un fjord. À Marseille, ce serait une calanque. Et cette entaille interminable à l'intérieur des terres, et à l'entrée, on découvre la fameuse barre d'Etel, qu'on appelle la mangeuse d'hommes, qui disparaît à chaque marée haute, qui se déplace en permanence, qui parfois est infranchissable. En fait, il s'agit d'un banc de sable formé par les courants dont la position bouge régulièrement. Et du coup, il faut absolument avoir reconnu le chenal lorsque la mer est basse et suivre les indications du sémaphore pour entrer. Le sémaphore de Plouignac, qui est le dernier sémaphore civil de France, est toujours là pour guider les bateaux. Ça donne un lieu totalement irréel, un fleuve côtier qui coule, qui a dessiné un labyrinthe où la terre et l'eau se cherche et parfois se trouve, générant des paysages riches de couleurs où les lagunes succèdent aux plages sauvages. Il y a une espèce d'harmonie qui sied aux sternes, aux hérons. Et quand on se balade en kayak, on a l'impression de parcourir une esquisse d'un peintre qui serait passé par là et qui aurait laissé une toile grandeur nature. Un sentiment conforté quand on aborde la petite île de Saint-Cadeau, qui est il y a un petit pont de pierre qui relie cette île au continent. Il y a quelques masures, il y a une petite chapelle romane. Et c'est tout en simplicité. Ça donne le tempo depuis des siècles. Et tout cela est émaillé de jolies cabanes ostréicoles. On peut s'arrêter, on peut grignoter quelques huîtres. C'est quelque chose de totalement incroyable, cette Ria d'Etel.
Merci Jean-Sébastien Petit-Demange. J'ai hâte qu'on aille visiter ça tous ensemble avec quelques douzaines d'huîtres, par exemple.
Et en kayak,
s'il vous plaît. Ah, on retrouve Charles Guyard, allez, correspondant RTL, reporter fil rouge en direct du Festival Interceltique de Lorient. Charles, vous avez donc terminé votre coup de Yaman et vous êtes au café ou au chouchène?
Alors c'est l'heure du café, Antoine, c'est vrai, mais pour faire passer le Kouign-Amann, eh bien, on va plutôt rester dans le local et on va aller goûter le chouchène avec Stéphane Mordelès, il est gérant de la cave du Dragon Rouge.
Le chouchène, en fait, c'est à la base, c'est la première boisson alcoolisée que l'homme aurait ingérée dans sa vie, qui s'appelle l'hydromel, de l'eau et du miel, qui a été amélioré à l'époque par les druides qui étaient un peu les pharmaciens du village en fait. Au tout début, ils auraient bien voulu faire du vin. Ils ont essayé de planter des vignes à l'époque, ça n'a pas fonctionné parce que le climat n'était pas forcément là. Et du coup, ils se sont dit, on va essayer de faire exactement la même chose que les vignerons un peu plus dans le sud en France. Et on va le faire en Bretagne, mais avec les moyens du bord, c'est-à-dire non pas des raisins, mais du miel.
Du chouchène, on a souvent dit, c'est fait avec du dard d'abeille, du venin d'abeille.
Oui, à l'époque, en fait, aujourd'hui, on sait comment on récupère du miel. Les miels sont dans des ruches tout à fait rectangulaires. Mais avant, c'était sous les arbres. On écrasait les ruches naturelles. Et là-dedans, il y avait forcément des abeilles ou des abeilles même mortes. Et avec le dard d'abeille, en fait, lorsqu'on a géré le produit, c'est mélangé. Ça fait notamment l'expression que ça faisait tomber en arrière. Et c'était vrai, ça attaquait le cervelet et ça faisait tomber en arrière. Aujourd'hui, que nini, c'est fini. Souvent, on pense que c'est un alcool très fort. C'est 14 degrés.
14 degrés, en tout cas, à consommer bien sûr avec modération, et si on en boit trop, on peut aussi tomber de sa chaise. Ça, c'est,
ouais, ça, c'est sûr, comme tous les autres alcools, et notamment le vin. Oui, tout à fait.
On va le goûter quand même.
Bien sûr. C'est idéal en apéritif. Ça va remplacer totalement le porto, par exemple. On va l'accompagner avec des melons, des petits jambons, etc. Chouchène, c'est tout bête. Un couple de Parisiens, dans les années fin 1800, début 1900, qui sont arrivés en Bretagne, ils ont découvert un Breton paysan. Il lui a présenté ce qu'il faisait, c'est-à-dire le cidre et son fameux mez. Et en discutant avec lui, en fait, le paysan lui a expliqué comment il faisait son mez avec de l'eau et du miel. Et il lui a expliqué, en fait, le miel, il le trouvait où? Sous l'arbre. Il récupérait ce fameux produit. Le Parisien a mal compris la chose. Sous le chêne. voilà, il récupérait sous le chêne en fait le miel. Voilà, quiproquo, comme qui a fait que c'est devenu chouchène. Et j'ai même envie de vous dire qu'il faut en boire, même le médecin l'a dit, et la preuve, c'est très bon pour la santé, parce que plus vous en buvez, mieux moi je me porte.
Et on le rappelle évidemment, à consommer avec plaisir bien sûr, mais surtout avec modération.
Ah oui, vous faites bien de le rappeler. Merci Charles Guyard, en direct de Lorient pour RTL. On vous retrouve, allez, dans une demi-heure, vous serez aux côtés du directeur artistique du festival. Jean-Sébastien Petit-Demange, nous avons un cadeau pour les auditeurs. Deux cadeaux même, deux logiciels. Oula. Alors, Généatique 2026, c'est le logiciel francophone de référence sur la généalogie. D'accord. Et StudioCrap 9, qui vous permet de créer des albums photos personnalisés, d'éditer des cartes de vœux, de préparer des mugs. Voilà. Vous avez, vous pouvez faire plein de choses avec StudioCrap.
J'adore quand vous parlez du scrapbooking parce que vous êtes convaincu.
J'adore ça. C'est ma passion. Jean-Sébastien, petit demande, on attend votre question.
En quelle année a été créé le Festival Interceltique de Lorient?
Un indice, c'est la 54e édition cette année.
Oui, mais ça veut rien dire.
Exactement. Vous faites bien de le rappeler. 64-900 avec le bon matin pour participer au grand jeu de Jean-Sébastien Petit-Demange. Il est 7h48.
RTL Matin avec Antoine Cavallero.
À suivre dans le journal de 8h, vos prévisions de circulation. C'est une journée noire sur les routes. Dans le sens des départs, on attend des centaines de kilomètres de bouchons. Esther Abitbol, on vous écoute.
Ça coince principalement sur l'A7 en direction de Marseille. 30 km de bouchons entre Reventin-Vaugry et Albon dans la Drôme, mais aussi sur l'A10 à l'entrée de la rocade bordelaise. Ici, la circulation est en accordéon sur une dizaine de kilomètres, Antoine.
Merci Esther. Point complet dans le journal. Il y aura aussi les informations de RTL sur l'assistance maternelle mise en examen pour viol sur de très jeunes enfants dans l'Hérault. Avant Vic Lagardiole, elle a travaillé 10 ans dans des écoles de Montpellier. Et puis les mondiaux de natation, c'est une journée de repos pour Léon Marchand. Il prépare le 400 mètres 4 nages de demain.
RTL événement.
Et l'événement ce matin sur RTL consacré à vos ADN. Chaque année, 150 000 Français continuent de se faire tester et pourtant c'est interdit. Remonter sur les traces de vos ancêtres peut vous coûter cher, jusqu'à 3 750 € d'amende. Bonjour Arthur Pereira.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Vous avez échangé avec Eric qui, grâce à son test ADN, a rencontré son frère américain.
Oui, une histoire digne de celle qu'on retrouve sur grand écran. En 2022, Eric prend sa retraite et vit paisiblement avec sa femme dans son village de la Meuse. L'homme décide de remonter sur ses origines et de faire un test ADN. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un Américain fait la même chose.
On a découvert qu'on était frères, c'est-à-dire vrais frères, même père et même mère biologique. Ce qui est vraiment quelque chose d'incroyable et évidemment tout à fait inattendu.
Les deux frères sont nés sous X, tous les deux adoptés à la naissance, lui dans le département des Ardennes, son frère dans l'Eure-et-Loire.
À côté de Dreux, il y avait une base d'aviation énorme qui était tenue par des militaires américains, et donc lui a été adopté par un couple de militaires américains, et c'est comme ça que de petit français, il est devenu petit américain.
Pendant 6 mois, les deux sexagénaires échangent par mail, par appel vidéo, avant une rencontre en chair et en os.
J'ai été l'accueillir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et c'était vraiment un moment émouvant. Non seulement où on est, dans quelle planète on est, on vient de trouver un frère.
Un moment unique qui aurait pu coûter très cher à Eric, puisque réaliser un test ADN en France est interdit.
Tous ceux qui veulent chercher leurs origines, eh bien, on les oblige à se mettre dans l'illégalité, donc ce qui n'est pas normal.
À la suite de cette découverte, le retraité a créé le collectif Né sous X, qui recense plus de 2000 personnes rien qu'en France.
Des tests ADN interdits en France, on vient de l'entendre, Arthur. Pourtant, il est très simple de s'en procurer.
Oui, en quelques clics sur Internet, des dizaines de sites proposent un test ADN. Le problème, c'est qu'il est impossible de recevoir les résultats en France depuis 1994 et la loi sur la bioéthique. Pourtant, il est très simple de contourner cette même loi. Nathalie est généalogiste, elle détaille la méthode.
La façon légale, la plus simple, vous partez en vacances. Les tests ADN sont autorisés dans tous les pays, hormis l'Iran, le Liban, le Yémen et la Russie et la Biélorussie. Vous pourrez vous faire livrer un test ADN à des fins de généalogie sur votre lieu de vacances en toute légalité et faire votre test ADN en toute légalité.
Oui, c'est assez simple en effet, mais pour éviter les dérives, Arthur, une députée a proposé une loi pour légaliser les tests ADN dans notre pays.
Oui, Nathalie Pouzirev, députée des Yvelines, en a fait son principal combat.
Chaque enfant, chaque personne doit avoir accès à ses origines. C'est un droit qui est reconnu dans la Convention de l'ONU de 1989, dans la Convention européenne des droits de l'homme.
Et l'élu de la République justifie l'intérêt de légaliser les tests ADN.
De pouvoir disposer de bases de données souveraines en France ou en Europe. De nos données les plus précieuses, nos données génétiques, qui peuvent être, avec le consentement bien sûr des personnes, utilisées à des fins de recherche médicale.
La députée espère déposer une proposition de loi avant cet été à l'Assemblée pour légaliser les tests ADN en France.
Reportage RTL, événement signé Arthur Pereira, c'est à retrouver sur RTL.fr. Vous avez un dossier complet sur l'application RTL. Dans un instant, celle que vous adorez retrouver tous les week-ends, et oui, la correctrice Muriel Gilbert est avec nous pour ce mois d'août. À tout de suite.
Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end.
Où aller si vous cherchez un vrai bon plan pour changer de plan de travail dans votre cuisine? Direction Casto. En ce moment, le plan de travail stratifié, aspect pierre graphite, épaisseur 3,8 cm, est au prix jamais vu chez Castorama de 59€. Moins de 60€ le plan de travail ultra moderne. Les Castolidaises, c'est seulement jusqu'au 18 août. Et pas besoin de plan. Direction Casto. 240 par 62 cm, 3000 pièces disponibles pour l'ensemble des magasins participants. Castolidaises, les vacances avec Castorama.
Et si vous faisiez halte au bord de l'étang de Thau, véritable lagune près de Sète, à la terrasse du Saint-Barth à Marseillan, offrez-vous un plateau de fruits de mer accompagné d'un verre de Listel. Listel, frais, délicat, un vin gris venu du sud. À l'horizon, son terroir, riche de soleil et de vent marin, baigné par une étendue d'eau azur. Listel, les saveurs de Méditerranée depuis 140 ans. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end avec Antoine Cavallero.
Catherine nous écoute dans les Yvelines, Fatou est également en région parisienne. Jean-Christophe nous envoie une photo de son réveil en Cévennes. Continuez de nous écrire 64 900 avec le mot matin. La page Facebook de l'émission, on attend de vos nouvelles.
Un bonbon sur la langue.
Muriel Gilbert.
On est très heureux de la retrouver. Muriel Gilbert qui nous régale tous les week-ends. Elle nous apprend les secrets de notre langue française. Tout le mois d'août, on réécoute ses meilleures chroniques. Bonjour Muriel.
Ah, bonjour Antoine, ami des mots, bonjour.
Et ce matin, vous allez nous surprendre.
Eh oui, je ne serai pas surprise de vous surprendre. En effet, c'est un beau gros livre que je viens de recevoir qui m'a donné l'idée de ce sujet. Il s'appelle « Les expressions françaises, quelle histoire ?» C'est publié par le Robert. Et j'ai décidé d'en profiter pour vous parler d'expressions qu'on écrit de traviole, essentiellement parce qu'on les emploie mais qu'on ne sait plus exactement ce qu'elles signifient.
Vous nous aviez parlé de faire bonne chère, par exemple.
Voilà, exactement, c'est le genre. Hein. Faire bonne chère qui signifie faire un bon repas, mais qui s'écrit, rappelons-le, comme chère madame et non comme chère à saucisse. Ce qui semblerait plus logique à première vue, je suis bien d'accord. Mais c'est comme ça. La chère, C-H-E, accent grave, R-E, de cette expression, c'est une ancienne façon de nommer le visage. Hein. Le mot cerveau, d'ailleurs, est issu de la même racine. Ça, c'est ce que m'a appris le livre. Mais au début, pas, en tout cas, faire bonne chère, c'était donc faire bon visage à celui que l'on reçoit. Et comme en France, bah, faire bon accueil, c'est forcément synonyme de bien nourrir.
Et bah donc, l'expression a plutôt évolué vers le chemin de la table.
Et voilà, c'est ça. Alors, une autre expression dont l'orthographe surprend souvent quand on fait quelque chose par acquis de conscience, c'est acquis C-Q-I-T, comme dans le verbe acquitter, hein. Non, C-Q-I-S du verbe acquérir. L'acquitter, c'était autrefois le paiement d'une dette, puis la reconnaissance de ce paiement, explique le Robert. Et dans ce sens, le mot a été évincé par quittance, mais il s'emploie encore dans la formule pour acquis, qui signifie paiement reçu, hein. Alors, à ne pas confondre, attention quand même, avec il tient ceci ou cela pour acquis, parce que là, c'est synonyme de tenir pour indiscutable, pour prouver.
Car là, c'est Q-U-I-S.
C'est ça, Antoine, bravo. Et tenez, d'autres homophones que l'on confond souvent dans nos truculentes expressions familières, ne mélangez pas le coin de ce qui est frappé au coin du bon sens, c'est-à-dire plein de bon sens, hein, comme tout ce que je dis à ce micro, par exemple. Voilà.
Allez-y.
Et le coin du durillon de comptoir qui est bourré comme un coin. Au coin du bon sens, c'est C-O-I-N, tandis que bourré comme un coin, c'est C-O-I-N-G.
Et pourquoi cela ?
Eh ben, tout simplement parce que c'est pas le même coin. Le premier, le coin du bon sens, ce n'est pas un angle, hein, c'est un autre sens de coin, C-O-I-N, c'est un objet bien concret. Par exemple, l'outil qu'on enfonce dans une bûche pour la fendre, le coin. Voilà, du temps où on battait la monnaie, on la battait vraiment avec un marteau, précisent les auteurs du livre. Eh bien, le coin était un sceau métallique gravé. Alors attention, un sceau S-E-A-U, celui du garde des sceaux. Pas un sceau S-E-A-U, le sceau à eau. Et encore moins un sceau S-O-T qui est un imbécile.
Bon, en tout cas, le coin était un sceau métallique gravé.
Ah oui, voilà. Alors, avec lequel on frappait les pièces pour en identifier l'origine. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est ce coin français qui a donné quoi en anglais ? Coin. Coin qui désigne les pièces de monnaie en anglais.
Et quant au coin, C-O-I-N-G, de celui qui a trop bu.
Oui, alors celui-là, c'est bien avec un G, hein, c'est le fruit jaune du cognassier. Rappelons que cognassier n'est pas un gros mot, c'est juste un arbre fruitier très bien élevé qui produit des fruits dont on fait notamment des pâtes de fruits et puis une gelée que j'adore. Alors, c'est probablement de la couleur jaune du coin C-O-I-N-G que vient le lien avec l'alcool hein, qui, en endommageant le foie, donne un teint cireux jaunâtre. Et d'ailleurs, la cirrhose vient du grec kyros qui signifie roux, précise notre savant bouquin. Ah, je crois que j'ai encore le temps de vous parler d'une dernière expression et j'espère que les amis des mots ne sont plus trop dans le coltard à cette heure car justement je voudrais leur demander comment écrivez-vous ce coltard-là ?
Allez, on leur laisse 3 secondes pour réfléchir.
Allez, 3 secondes, hein, ok. Être dans le coltard, c'est bien être dans une sorte de demi-sommeil. Mmh. Je le vois très souvent écrit avec un D final.
Oui, avec un D.
Ou comme ça se prononce parfois, C-O-L-T-A-R. Non, 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 aucune des deux solutions n'est bonne.
Mais alors, c'est laquelle ?
Eh bien, si le français a donné à l'anglais sa pièce, hein, coin, on en parlait tout à l'heure, l'anglais a donné au français son coltard, qui s'écrit C-O-A-L-T-A-R. Coltard. Et oui, c'est un mot anglais formé de 2 termes. Coal, le charbon, et tar, le goudron. Le coltar, en anglais, hein, c'est une matière noire et visqueuse qui servait à colmater la coque des bateaux. Et l'expression, fait remarquer le livre, n'est pas sans nous en rappeler une autre, plus facile à écrire, être dans le cirage. Le cirage, comme le coltar, offre l'image d'une matière noire et collante dont il est difficile de se débarrasser.
Bon, en tout cas, vous nous surprenez tous les matins, Muriel Gilbert, ce qui nous fait sortir du coltar. Merci
avec
beaucoup
plaisir.
À vous, et merci donc aux éditions Le Robert pour ce livre, Les expressions françaises. Quelle histoire que vous nous recommandez chaudement.
Je vous le recommande en effet.
Votre chronique est sur RTL.fr. Maryse à 13 degrés dans l'Oise, 19 à Pézenas pour Martine dans l'Hérault. Elle nous prévient, attention au feu, Anthony Casmarek.
Oui, risque d'incendie de forêt élevé sur presque tout le littoral méditerranéen aujourd'hui, en niveau orange, donc sur la carte de la météo des forêts, parce qu'il y a du soleil, de la chaleur autour de 30-31 degrés, et du mistral et de la tramontane jusqu'à 70.